pensée locale.
Radio G vous propose un nouveau podcast.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Bonne année!
Bonne année! Bonne année!
Qu'est-ce que t'as dit, hasta luego?
Non, j'ai dit Feliciano Nuevo.
Ah, Feliciano Nuevo. Happy New Year, et voilà.
Bienvenue dans Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, un mercredi sur deux.
Les semaines paires.
Sur Radio G. Salut les gars.
5.
Salut.
Et salut Seb. Salut Romain.
Alors, ce soir, une spéciale Best of 2022. On l'avait pas fait.
Ah oui.
On avait surtout fait cadeau de Noël hein, avant les vacances.
Mais c'est ça.
Des tutos que j'espère que on salue Seb hein, qui nous écoute sans doute. J'espère qu'il a suivi tous nos petits conseils écolo.
Furoshiki.
Ah, je sais qu'il les adore donc je pense
nous
que,
aussi. Ouais. Et j'ai pas testé les Furoshiki encore.
Ah bon. Bah,
et toi alors
bah, oui vraiment. un peu. J'en ai. J'ai pas tout fait comme ça j'avoue.
Alors non, mais ça se travaille avec le temps. Ça.
Ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, puisque c'est le début de l'année quand même, on rappelle le concept, c'est l'éclectisme.
C'est ça.
Donc on parle de films, de séries. Télé, de musique, de bande dessinée, de livres, tout ce qu'on aime.
Exactement.
Voilà. Et on démarre en général l'émission avec
et d'écologie depuis.
Oui, c'est vrai.
Ça arrive, ça arrive. Pour faire plaisir à Seb, parce que vraiment ça lui tient à cœur.
Ouais, voilà. C'est un petit plaisir.
C'est un petit plaisir coupable.
C'est ça, c'est ça.
Alors on va démarrer cette émission et cette année dans Bande Geek Mafia avec All Cleaned Up. Qu'est-ce que c'est, Romain?
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le titre d'un groupe que j'aime bien, qui s'appelle les Orwells. Et si vous aimez ce titre, je vous suggère d'écouter Buddy aussi. C'est vraiment sympa. Et puis celui-ci, je l'ai écouté beaucoup dernièrement, donc je voulais partager, parce que quand on aime bien quelque chose, ça fait toujours plaisir de le partager avec les copains.
Et c'est parfait, c'est tout de suite dans Monde Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
Radio qui fait le point, bien sûr.
We'll be right back.
Et voilà, c'était The Orwells dans Monkey Kick Mafia.
Ça va, celui de la flûte.
Ça, c'est bien.
Ah.
Romain, il fait tous les jingles à la bouche.
Mais quel artiste, mais quel artiste.
Attends.
Alors, cinéma 2022 nous a offert pas mal de films documentaires, de films de fiction, beaucoup de films qu'on a adorés. Pablo, est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît ?
Allez, avec plaisir. Alors, moi, je vous propose deux films, peut-être un petit troisième, parce qu'on va parler quand même un petit peu d'Avatar. Mais alors, d'abord, un documentaire qui m'a vraiment énormément plu à cet automne. C'était Mon pays imaginaire, Mi País Imaginario, du documentariste chilien Patricio Guzmán. Un superbe documentaire militant et émouvant sur le changement démocratique à l'œuvre depuis 3 ans au Chili. Ce film est un hommage rapidement à la révolte populaire chilienne, voire au processus d'une révolution démocratique en train de se faire actuellement depuis l'estallido, explosion ou flambée, c'est-à-dire quand les jeunes ont investi la rue pour demander un référendum, pour demander plus une nouvelle constitution, puisque actuellement le Chili est toujours sous l'ancienne constitution héritée du général Pinochet, de la dictature. Et alors, actuellement, le président Gabriel Boric, jeune président de la gauche radicale, a été élu. La commission a proposé un texte de constitution qui, certes, a été rejeté, mais qui devra être repris. Donc, un processus démocratique est en cours. C'est aussi un hommage donc, à la jeunesse, aux femmes et du pays. Et vraiment dans une qui s'est mobilisée à la fois de façon parfois pacifique, mais parfois de façon violente, qui a payé cher le prix de la révolte, avec 400 blessés aux yeux par des tirs de LBD, oui. Sans compter les autres blessures et les viols sur femmes. Donc cette jeunesse, c'est une jeunesse qui vient après la dictature, qui n'a pas connu la répression et la terreur des disparitions. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une jeunesse qui n'a pas peur et qui réclame la dignité. Donc voilà, ce documentaire, je vous le recommande vivement, Mi País Imaginario.
Merci Pablo.
Ouais. À toi peut-être.
À moi peut-être. Alors,
allez, let's go.
Moi j'ai un top 3 2022, hein, donc je peux vous le livrer tout de suite.
Puis, ouais, voilà. Ouais, bien sûr.
Donc il y a Armageddon Time de James Gray. On va en parler tout de suite avec Romain.
J'adore.
Il y a encore le film de Cédric Clapiche et Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, parce que j'adore Quentin Dupieux.
Excellent.
Alors on parle tout de suite d'Armageddon Time.
Romain, pourquoi pas.
Donc un film américain du grand James Gray qui a fait des films magnifiques comme Two Lovers.
La nuit
nous appartient, exactement, avec Joaquin Phoenix. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son grand-père. En gros, on est dans les. Alors, c'est un peu l'histoire de James Gray, d'ailleurs. On est à New York dans les années 70, et c'est sur la relation familiale entre ce petit garçon et son grand-père. C'est aussi sur une histoire d'amitié très forte avec un autre garçon noir du quartier. C'est des rapports de classe, hein, clairement.
Tout à fait.
Sur la famille et la lutte des classes, quoi.
C'est ça. C'est ça. Et j'ai envie de dire aussi, sur la condition d'humain, en fait, quelque part, il y a des tas de choses. Alors après, j'ai peut-être surinterprété le film, mais j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions, même philosophiques, sur... par exemple, je te donne un exemple, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu, mais... bon, il est issu d'une famille juive, et puis on voit comme ils ont été oppressés un certain temps, et puis comment ils essaient de se trouver une place dans cette Amérique, voilà, à ce moment-là, et qu'ils, finalement, ils arrivent petit à petit, grâce au grand-père, hein, qui clairement est le moyen, est le levier qui permet l'ascension sociale, c'est lui qui va organiser tout ça. Et puis, en fait, on a l'impression que son copain noir, en fait, c'est lui qui va un petit peu... prendre le rôle qu'avaient les Juifs quand ils étaient. Et finalement, il y a des moments comme ça, il y a des moments clés où tu pourrais te dire, tiens, moi-même ayant été victime de discrimination un temps, eh ben, je vais comprendre l'oppressé et puis je vais me ranger de son côté. Et finalement, la scène de la cour de récréation où il est avec ses petits copains, enfin, il arrive dans une école un petit peu où il y a des gamins qui sont de familles qui sont en réussite américaine, de tradition, tout ce que tu veux. Et il y a son copain black avec qui il était depuis toujours, avec qui il entretenait cette amitié-là depuis qu'il était dans sa première école, avant qu'il soit viré. Mm-hmm. Il vient le voir dans sa nouvelle école, donc avec ses nouveaux amis bien propres. Et finalement, il l'ignore, il le laisse un peu filer entre ses doigts. Il fait comme s'il ne le connaissait pas, parce qu'il voit bien que les autres s'interrogent sur pourquoi tu lui parles, ainsi de suite. Il y a encore ce côté, c'est surtout à plein régime, ce côté ségrégation contre les Noirs. Et tu pourrais te dire, c'est le moment clé où il va prendre position pour justement défendre.
C'est un enfant.
Mais justement.
Il n'a pas encore de conscience politique.
Son grand-père vient le rappeler.
Son grand-père, lui.
En souvenir, en hologramme, vient lui dire t'aurais dû faire ça, alors que son père lui dit plutôt écoute.
Faut s'intégrer.
Faut s'intégrer. On a la chance de ne plus être ceux sur qui on tape, donc il faut. Tant pis, c'est leur tour maintenant. Il faut faire. Faut profiter de la situation, et puis c'est tout. Et ça t'en dit quand même beaucoup sur l'humain, en fait. L'homme est un loup pour l'homme, enfin, tout ce que tu veux. Mais finalement, il y a cette idée-là qui moi, je perçois dans le film. L'idée que tu peux être. À quel moment finalement tu bascules et tu comprends tu fais fi de ton intérêt potentiel pour justement te rappeler de d'où tu viens et puis oui dis-moi vas-y
alors le film c'est pas que ça non plus
non
parce que ça c'est qu'une petite partie du
tout
film
tout à fait mais j'adore
et moi je dirais que c'est un film humaniste
c'est vrai
parce qu'en fait c'est ça aussi cette histoire
c'est
qu'il n'oublie pas complètement son copain noir
non
parce que d'après ce que tu dis on se dit ça y est il l'a oublié il est passé à autre chose mais c'est pas tout à fait vrai
d'accord.
Donc c'est plus subtil en fait
Donc
et ça c'est qu'une partie de l'histoire
c'est un épisode de l'enfance
mais il y a toutes ces relations avec les adultes avec les différentes classes sociales enfin moi j'ai trouvé que c'était un film génial
d'ailleurs à la fin si je dis pas de
non raconte pas la
d'accord.
Fin. Okay. Ah non, jamais. Alors, Pablo, la suite.
Alors, la suite, moi, je vais vous parler de Sans filtre, Triangle.
Tu nous en avais parlé.
Déjà. Sadness, je vous en avais déjà parlé.
L'actrice principale est décédée.
Mais voilà, de façon assez incompréhensible, en fait, elle a attrapé une forme de Covid, mais très, très violente, virulente, et en 3 jours, elle était morte. Donc, le film est de Ruben Östlund, Suède. Et c'est la Palme d'Or l'année dernière, du coup, en 2022, à Cannes. Alors, Sans filtre, c'est affreux, riche et méchant. Hein. C'est une satire sociale grinçante et décapante sur notre monde contemporain, malaisante et jubilatoire à souhait. Ce n'est pas La croisière s'amuse. Hein. Ce film est plus un mélange entre La nef des fous. La nef des fous, c'est un célèbre tableau de Jérôme Bosch. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et Titanic, mais alors revu par les Monty Python.
El Bosco.
Et voilà, exactement, El Bosco. La violence des inégalités et des hiérarchies qui cohabitent sur ce yacht de luxe font ressortir une galerie de portraits au vitriol. Des retournements savoureux et même une Robinsonnade cruelle. Mais je peux pas en dire plus. Sans filtre donc. Vraiment à voir parce que voilà, si vous voulez un peu de méchanceté jubilatoire.
Pas mal.
C'est tout ce qu'on aime.
Et on adore
ça. C'est ça.
Alors, 2 autres films pour moi, rapidement. Pablo, c'est bon pour toi ?
C'est parfait.
Alors, encore de Cédric Clapiche. Bizarrement, il est dans mon top 3 parce que, vraiment, Clapiche, là, il est revenu vraiment haut niveau. Hein. Il est revenu au top.
Oui,
c'est vrai
tu en avais parlé déjà.
Oui, j'en avais parlé un petit peu parce que ça m'avait beaucoup plu. Ça nous avait beaucoup plu aussi, Florence et moi, à l'époque. En fait, c'est une très belle histoire. Là aussi, Romain, il faut que tu vois ce film, ça va te plaire. C'est aussi un film humaniste. Parce que c'est l'histoire d'une danseuse qui est extrêmement... compétente, performante, enfin voilà, et qui se blesse. Elle se blesse gravement, et donc elle peut plus danser. Elle peut plus pratiquer sa passion, vivre sa passion. Enfin, c'est triste, quoi.
Bien sûr.
Sauf que elle va finalement trouver un petit boulot pour alimentaire. Elle va se retrouver finalement à gérer un gîte avec un pote qui lui fait la cuisine. Alors lui, il est super drôle, c'est Pio Marmaille, il est extraordinaire. Et dans ce gîte arrive une troupe de danseurs.
Ah ouais.
Ouais. Et eux, ils sont là pour répéter en fait un spectacle. Et donc petit à petit, forcément, elle est attirée par la danse, elle est attirée par les danseurs et les danseuses. Et c'est dur pour elle. Mais petit à petit, elle va reprendre corps, elle va reprendre le contrôle de son corps en fait, et elle va se remettre tout doucement dans le mouvement en fait. Elle était statique, elle était obligée de rester statique. Elle va reprendre le mouvement, la danse.
Enfin, c'est ce que tu as dit, reprendre
très,
corps.
Très beau.
Ouais, reprendre
très
beau. Corps.
Elle va reprendre corps, elle va reprendre conscience de son corps et elle va revivre en fait. Donc c'est un film génial. Moi, en plus c'est pas triste en fait, un petit peu au début, mais c'est un très très beau film. De renaissance.
Voilà. Au départ, ça m'a fait penser à Benjamin Button. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Benjamin Button.
Lui, il rajeunit.
Oui, mais la femme dont il est amoureuse, elle danse, elle part. Enfin, il se sépare, elle danse, et puis elle est renversée par un taxi. Et puis ensuite, la danse s'arrête pour elle à ce moment-là. en fait.
Et ben là c'est, la danse va reprendre, en fait.
Ah, c'est très bien.
Donc
très bien.
Je vous conseille vraiment ce très bon film.
C'est qui l'actrice principale?
Alors, merci Pablo, je ne sais pas.
Non,
j'ai oublié.
Ah non,
sympa,
désolé.
Pablo, la question.
Tu connais l'histoire de... Par contre, Pio Marmaille, on l'avait vu.
Pio Marmaille, Florence l'adore.
On l'avait vu en thérapie.
C'est Marion Barbeau, l'actrice principale.
Ok, d'accord, je ne connais pas. Mais par contre, Pio Marmaille, ouais, en thérapie, il était excellent. Enfin, il jouait le.
Non, mais Pio Marmaille, il est toujours excellent. C'est voilà. Juste un très grand acteur qui plaît beaucoup aux femmes. Voilà.
La première fois où je l'ai vu, c'était dans Le Premier Jour du Reste de ta vie. Je
crois, moi aussi. Ah,
ouais. Alors, juste un. Pardon, t'as fini?
Non, parce que je voulais parler de Fumer fait tousser.
Bien sûr.
Oui, le film de Quentin Dupieux. Sauf si tu voulais parler d'un autre film, Pablo. Après. D'accord. Quentin Dupieux, donc, moi j'adore ce réalisateur. Il a sorti deux films en 2022. Oui. Il a sorti Incroyable mais vrai avec Alain Chabat et Fumer fait tousser. Hein, et Fumer fait tousser avec Gilles Lelouch en particulier. Alors, bon, après, on aime ou on déteste hein, l'univers de Quentin Dupieux, c'est complètement farfelu. Là, c'est la Tabac Force. En fait, c'est des super-héros qui ressemblent à des Bioman ou des trucs comme ça, des Power Rangers même, qui luttent contre le mal grâce aux méfaits du tabac, la nicotine, le mercure, etc. Et ils sont envoyés en vacances hein, par leur chef, le chef Didier, qui est joué par Alain Chabat, et enfin qui fait la voix parce que c'est un rat immonde, le chef Didier, et c'est Alain Chabat qui fait la voix. Et donc ils sont envoyés en vacances, ils sont envoyés au vert parce qu'ils ont beaucoup donné, ils sont fatigués. Et là, c'est le drame parce qu'ils savent pas quoi faire, donc ils se racontent des histoires, ils se racontent des aventures qu'ils ont eues auparavant et des histoires qui font peur autour du feu.
Waouh,
ça a l'air. Je peux pas vous en dire plus.
Ça a l'air délirant.
Il y a pas un robot là-dedans.
Si, il y a un robot.
D'accord.
Il y a un robot qui a un rôle important.
Ah non, mais quand même.
Et donc voilà, donc c'est pas un film à sketch en fait, même si après il y a plusieurs petites histoires qui se succèdent puisqu'ils se racontent des histoires qui font peur autour du feu, mais c'est complètement farfelu, donc c'est du délire, c'est du Quentin Dupieux,
c'est ça,
c'est surréaliste, il y a pas d'autre mot. Mais c'est peut-être son film le plus facile à regarder, sauf qu'il y a des scènes gore. Alors ça c'est nouveau.
Ah.
Il y a deux, trois scènes gore au cinéma. Moi, je l'ai vu avec Paul au cinéma. Il y a quand même des gens qui sont sortis de la salle. Hein.
Ah ouais,
à ce point?
Des jeunes, des petits. En fait, ils étaient trop jeunes pour voir ça.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Parce qu'il y a quand même quelques giclées de sang.
Et petite question subsidiaire. Si tu faisais ton top 3 des Quentin Dupieux, tu mettrais quoi?
Oh là là, mais c'est difficile.
Bah, c'est pour savoir si tu l'intégrerais dedans ou pas.
Ah, je sais pas. Ça. Moi, je mettrais Réalité.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Mmh. Je mettrais Au Poste avec Benoît Poulvorde.
Ah ouais, très bon.
Qui est génial.
Très bon. Il fait très
garde à vue.
Ouais, mais tu sais l'absurde. Oui.
Ah ben c'est toujours absurde.
Oui, mais tu sais l'auteur roumain, enfin en tout cas.
Ionesco,
c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et ça fait vraiment penser à Ionesco en fait.
Alors Fumer fait tousser, c'est moins, enfin c'est plus. Alors c'est voilà, c'est le problème de Quentin Dupieux, c'est moins et c'est plus à la fois.
Ouais.
C'est peut-être moins absurde, mais c'est plus farfelu.
D'accord.
Les deux sont, enfin ça veut dire la même chose quasiment, mais on n'est pas dans l'étrangeté. Par exemple, dans Réalité, il y a un truc très étrange.
Ou dans Mandibule aussi.
Là, on est plus dans l'humour, mais l'humour noir, en fait. Enfin, voilà,
si et le Dain, c'était de l'humour noir aussi.
Ah, le Dain, c'était noir. C'était,
voilà.
Mais c'était le meilleur rôle de Jean Dujardin.
Ah, il est bon, hein. Il est bon dedans. Il est bon.
Pablo, il est là. Faut qu'on se dépêche.
Ouais, quelques mots rapides sur Avatar 2, du coup.
Oh,
la voix de l'eau.
Alors, on a 3 heures pour ça.
Non, on est
3h20.
Voilà, 3h20.
Beaucoup trop long, ça.
Allez le voir en 3D.
En 3D?
Ah bah ouais, il y a une vraie. C'est vraiment un film qui a été réalisé en 3D. Ça vaut vraiment le coup.
Attends, c'est pire que ça.
Non, honnêtement, on passe un bon moment. J'étais moi-même sceptique.
T'es pas endormi ?
Non, pas du tout. J'étais vraiment sceptique parce qu'au départ, bon voilà, bon Avatar, moi franchement, j'avais beaucoup aimé cette fable écologique sur la planète de Pandora. Très bien. Et puis c'est vrai qu'on se dit voilà, James Cameron qui revient avec sa grosse machinerie. Voilà, on ressort les armes à feu, les bazookas. Gigantesque. Et en même temps, il y a beaucoup de subtilité, il y a un rapport qui est très fin dans le traitement du rapport des navis aux animaux, et puis même entre eux, avec leurs différences et tout. Bon, il y a des choses, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, il y a des très belles images, vraiment. Il faut se laisser emporter dans l'imaginaire, dans la face. Voilà, un joli petit conte.
Et la famille qui est traitée aussi sur une histoire de famille recomposée, si j'ai bien compris.
Oui, absolument.
D'accord.
Absolument. Et ça, c'est intéressant aussi. En tout cas, très bien.
Ouais. Merci les gars. Il faut qu'on passe à la suite.
Allez, on passe à la suite. On enchaîne.
On écoute un petit morceau de musique. Alors, The Smile, on en parle tout à l'heure dans notre top musical. Mais on écoute tout de suite Skirting in the Surface dans Mon Cinéfa.
sur Radio G 101.5.
Radio qui fait le point, bien sûr.
C'est chouette.
Ouais, c'est magnifique, Radiohead. Enfin, c'était The Smile.
Smile, mais
enfin,
c'est pareil.
On va en parler juste ouais. après.
Pablo ?
Et on passe aux séries.
Les séries, c'est parti. Tu veux un petit jingle ou on y va ?
Oh, non, on peut y aller.
Allez, c'est parti.
Allez, on avait Radiohead, on va pas. Ah non, moi, ça me va très bien. Alors, moi, j'ai deux séries. Principalement, mais en fait on en a une en commun, donc je vais parler de la première, c'est Les Papillons Noirs. Je vous en avais déjà parlé, c'est une mini-série en 6 épisodes, créée par Bruno Merle et Olivier Abou. D'abord diffusée sur Arte, puis actuellement sur Netflix. C'est un thriller d'une profonde intensité qui nous plonge au cœur des ténèbres et nous y enfonce peu à peu. Une perle noire et brillante comme l'obsidienne. Bon, en gros, c'est Adrien alias Maudit qui va rencontrer un vieux monsieur qui le contacte. Il a publié un roman qui a cartonné. Mais là, il est en mal d'écriture, en panne d'écriture, l'angoisse de la page blanche. Et cette personne lui propose de rédiger ses mémoires. Il accepte, sauf que très vite, ce que l'autre commence à lui sortir, ce sont des dingueries et très vite des meurtres en série.
Ne dis pas tout.
Et en fait, il se trouve piégé dans une relation qui est un peu comme nous, d'ailleurs, spectateurs, entre fascination et dégoût. Et voilà, une esthétique incroyable qui mêle à la fois voilà, la noirceur et puis le côté pop des années 70-80.
Les années 70
ouais. Ouais, tout à fait, où les faits sont relatés. Bref, à la fin, on a des rebondissements sur rebondissements. C'est une avalanche, une escalade, un feu d'artifice jusqu'à la révélation finale. Donc voilà, c'est très addictif.
Oui, c'est une série très réussie avec ouais. Nils Harald Strup.
Exactement,
Nils Harald Strup. Qui est excellent. Et puis, alors, cette jeune femme-là, qui est incroyable.
Ah oui, aussi, ouais. Ouais,
une nouvelle actrice ouais. là qu'on connaissait.
Ouais, tout à fait. Et autant les acteurs qui jouent les personnes âgées que les jeunes sont vraiment mais très très bons, hyper crédibles. Donc ouais. C'est pour ça, allez-y, les yeux fermés.
Les Papillons Noirs. Alors maintenant c'est noirs. Sur Netflix d'ailleurs, on la trouve
voilà,
sur Netflix.
Il est sur Netflix.
Ça passait sur Arte.
C'est ça.
Et on la trouve sur Netflix. Alors, on peut parler ensemble de mercredi, si tu veux.
Eh bien, impeccable, Wednesday.
Alors, voilà, j'en ai parlé un petit peu dans l'émission, mais il faut qu'on en reparle parce que c'est quand même excellent. Là, j'ai fini, moi, la saison.
Tout à fait.
Donc, c'est l'histoire de Mercredi Adams, hein, de la famille Adams, qui se retrouve à l'école, au lycée. Voilà. Et alors, c'est dans une ambiance très Harry Potter.
C'est ça, hein. Tout à fait.
Et donc,
Harry Potter, chez les Freaks.
Voilà. Ah, vas-y, Pablo.
Non, c'est un peu chez les Freaks, quand même. Hein. Ouais, oui. Vas-y. Continue.
Non, mais je pensais que tu avais écrit deux, trois choses.
Non, après.
Non, mais écoute, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc du coup...
En tout cas, c'est un mash-up, si j'ai bien compris, voilà. entre Tim Burton et puis Harry Potter.
Exactement.
Quoi. Ça fasse un spectre relativement large pour séduire le
c'est
public.
Ça,
et ça fonctionne, visiblement.
C'est une série très gothique, malicieuse. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau retour de l'esthétique léchée et la noirceur de Tim Burton, non ? Tu dirais ça ?
Oui, je suis d'accord.
Ok.
Non, parce qu'en fait, je voulais dire un truc, mais je ne sais plus ce que c'est, donc je te laisse la parole.
Je suis navré. Non, je voulais juste dire que c'est effectivement, on a cette jeune fille qui débarque à l'école, tu disais, et qui va... alors, c'est une école de... Ils disent marginaux, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une école de freaks qui tiennent beaucoup à l'esthétique burtonienne et elle va enquêter sur une série de meurtres sordides qui va révéler plusieurs choses. Moi ce que j'ai trouvé peut-être intéressant, je sais pas si on retrouve effectivement le nord des États-Unis que Tim Burton adore, notamment de ces villages et villes créés par des Hollandais puritains avec sur fond un peu historique de cette chasse aux sorcières, les fameux procès des sorcières de Salem du XVIIe siècle. Il y a cette référence qui est là précisément. Ces sorcières, ces femmes en fait qui avaient été accusées de sorcellerie et qui marquent un des grands féminicides perpétrés par des fanatiques religieux. Donc il y a ce petit fond historique qui est présent. Voilà. En plus de cette.
Ça fait penser à Sleepy Hollow un petit peu.
Ouais.
Ah là là. Quelle belle référence.
Exactement.
Voilà, puis on a une jeune actrice qui est très bien, voilà, dont j'ai oublié le nom, mais...
Et qui avait fait autre chose avant ça, parce que je crois qu'ils en parlent énormément de cette jeune actrice.
Tout à fait, elle a un nom mexicain.
Qu'elle vend en poupe.
Elle a un nom mexicain.
Mais
elle s'appelle Jenna Ortega.
Ortega.
Et on retrouve Christina Ricci qui jouait Mercredi Addams dans les films qu'on connaît.
Un caméo. Enfin, plus qu'un caméo.
Non, elle a un rôle important.
Un rôle, d'accord, très bien.
Elle a même un rôle très important.
Ah, ok. Ouais. Bah donc vous la conseillez, vous êtes séduits tous les deux.
Ouais, c'était bien. Alors à un moment donné, ça c'est quand même pour moi signe de qualité, on entend un morceau des Cramps.
Ah,
je sais pas si vous connaissez les Cramps, un groupe de
nom.
Un groupe de rock américain que j'adore moi. Et on entend ce morceau et on voit Mercredi Addams danser.
Ah d'accord,
c'est la fameuse scène de la danse qui est devenue hyper virale. Alors c'est vrai que si on peut dire un petit mot sur Mercredi Addams, l'héroïne, bon, elle intègre cette école, ok, et elle va enquêter. Mais alors, il y a parfois, alors elle est hyper intelligente, elle est audacieuse, elle est énervante. Elle a un côté parfois un peu cliché dans sa dark attitude, mais tellement choupi et sombre à souhait. Donc j'ai l'impression qu'on lui pardonne. On lui pardonnerait toutes ces phrases.
Et elle a une copine aussi qui est marrante, parce qu'elle est obligée de partager sa chambre avec une autre fille, qui est l'inverse, en fait, de Mercredi, qui est une fille
solaire.
Très solaire, et ça, c'est assez sympa.
Ah ouais, tout à fait.
Ok.
Voilà, Mercredi.
Et petite question, vous avez peut-être... Est-ce que... Non, je te coupe peut-être...
Non,
est-ce que ce titre, du coup, grâce à la chanson, un peu comme, finalement, ça avait été le cas avec Stranger Things, tu sais, avec le titre qui était, qu'ils avaient exhumé des années 80 et qui avait fait un buzz énorme. Exact. Est-ce que ce titre aussi des Cramps a eu un succès
Je ne sais pas, mais moi en tout cas j'ai réécouté les Cramps.
Bah voilà, tu vois, c'est déjà
c'est un groupe que j'adore.
Ça en dit long. Mais c'est dingue comme les séries en fait des fois relancent des titres et puis font des millions d'écoutes et ça permet aux jeunes de découvrir des fois des groupes qu'ils connaissaient pas du tout.
Moi je me suis refait une playlist parce que j'avais les Cramps en cassette. Donc je me suis refait une playlist sur une plateforme.
C'était assez inattendu,
Moi j'adore.
On n'attendrait pas ça forcément dans cette série.
Donc c'est gage de qualité.
T'as rembobiné avec un crayon la cassette et tout. Ah bah voilà. Tout va bien, les bases sont là.
Bon, dernière série parce que le temps passe. Dahmer, alors moi je suis un fan de tueurs en série. Je connais beaucoup d'histoires et de films et de bouquins autour de ça. Et donc il y a eu cette année la série Dahmer le monstre, une série sur Netflix. Alors c'était plutôt réussi pour plusieurs raisons. D'abord l'acteur principal qui est extraordinaire, parce que c'est quand même pas un rôle facile de jouer le cannibale de Milwaukee. Voilà, Jeffrey Dahmer. Autre point positif, alors l'acteur il s'appelle Evan Peters et vous l'avez vu si vous regardez la série American Horror Story.
Oui,
il est dans toutes les saisons d'American Horror Story. Donc c'est lui qui joue Jeffrey Dahmer, donc l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine, qui a été arrêté plusieurs fois mais qui a été relâché par la police avant d'être arrêté définitivement en 1992. Enfin, il aurait pu être arrêté définitivement. Il a parfois été contrôlé, il a eu des ennuis avec la justice, mais il n'a jamais été vraiment... personne n'avait compris en fait, l'horreur du truc.
Oui.
Jusqu'en 1992. Alors cette série, elle est bien faite aussi parce qu'on n'a pas seulement le point de vue du tueur, parce que ce serait très voyeuriste. Enfin, moi, ça me mettrait mal à l'aise d'être à la place du tueur. Non, c'est qu'on a aussi le point de vue des victimes. Voilà. Ce qui en fait une série tout à fait intéressante et pas vulgaire ou qui nous met dans une position
malsaine, qui tourne qu'autour du fanatisme autour du.
Alors meurtrier. Pas du tout en fait, c'est au contraire. Jeffrey Dahmer, on le trouve pitoyable plus qu'autre chose, plus que fascinant en fait, parce que c'est un type. En fait, on le voit sombrer dans la folie, c'est très bien fait. Hein. Parce que Jeffrey Dahmer, c'est un type qui a plein de problèmes depuis qu'il est enfant en fait, dans sa famille, etc. Et avec ses amis, à l'école, petit à petit, et on voit que petit à petit, il essaye de s'en sortir, il n'y arrive jamais, et il sombre dans la folie meurtrière, voilà. Et on voit la descente aux enfers de ce type, en fait. Par contre, on n'a aucune pitié pour lui, c'est un monstre. Hein,
mais c'est ça qui est bien, ce que tu racontes, c'est que d'ordinaire, l'écueil qui est fait, le truc un petit peu le travers, c'est souvent que ça soit des narcotrafiquants ou des tueurs en série, on a tendance à les glorifier, faire des... Et là,
c'est un pauvre type, en fait.
Ah, mais ça me fait penser... physiquement, il me fait penser, tu sais, dans les Talking Heads, le Psycho Killer, titre, tu vois.
C'est ça.
Il me fait penser à ce... Exactement, c'est un très bon titre, d'ailleurs.
D'ailleurs, il me semble que ça a été aussi une espèce de fausse polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux à propos de cette série qui était la série la plus regardée là sur cette fin d'année 2022 et en disant qu'il y avait la fascination pour le tueur en série. Donc c'est bien que tu rétablis ça parce
Je pense pas
effectivement
honnêtement je ne crois pas
tout à fait tout à fait
et voilà non c'est une histoire quand même extrêmement troublante parce que quand moi je le dis souvent, ça, je cite souvent cette anecdote, mais c'est, ça résume bien la situation. C'est quand Jeffrey Dahmer est arrêté et que bon bah lui il nie pas du tout les faits, hein, et que tout le monde comprend ce qui s'est passé. On lui demande pourquoi il a fait ça et lui répond bah, parce que je me sentais seul. Voilà, ça résume un petit peu tout. Bref. C'est l'heure de la musique.
Ouais,
alors on va écouter un petit stupéflip si vous voulez.
Ah oui, mais oui.
Un des meilleurs albums de 2022.
Ah ouais, ouais.
En toute honnêteté, bah, bien sûr.
Et objectivité.
Et objectivité dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
105. Est-ce que t'es perdu, tu fais le moins, tu viens d'installer mal, installer mal.
Grosso modo, toujours pas démodé. Pas de billets tout pour les écrits, car je les maudis. Pas de mots doux, pas d'émago comme Narendra Modi. Spliff vers minuit et sieste dans l'après-midi. J'piste les trolls qui distillent la confusion. J'bloque les bâtards pour éviter la contagion. Pas de ça ici, j'attaque en traître comme la calvitie. Pas de démocratie dans la pharmacie.
We're the top, we're the best. So much better than the rest. When the world seems wide and scary, we'll keep fighting for the West.
Les oreilles dans les choux, mais où sont mes bottines? On frise les poils du derge permanent et du slip. Revient-elle un coiffeur ou salon stupéflip?
We're the top, we're the best. So much better than the rest. When the world seems wild and scary, we'll keep fighting for the West. We're the top, we're the best. So much better than the rest. When the world seems wild and scary, we'll keep fighting for the West.
Bebop, oh la la.
Voilà. C'était stupide.
Toi, tu penses que tout le monde est nul, quoi. Et les infirmières qui sauvent des vies. Ils sont nuls en bowling.
Et qui dit ça?
C'est dans l'album de Stupéflip.
Ah oui,
ah, d'accord.
Stup Forever, un des meilleurs albums de 2022. Alors justement, les gars, on va parler musique.
Ouais. Hein,
allez, c'est parti.
Est-ce que vous voulez un petit générique musical?
Mais tellement, bah, on les adore. Donc.
C'est vrai?
Ah ouais.
Oh, ça c'est sympa.
Ah bah si. C'est...
Bon, allez, un classique.
Allez.
Ah bah oui, il faut peut-être que je monte le truc.
On a eu le meilleur.
Creature Shock Radio FM.
Alors.
The day I followed Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Allez, c'est parti. The Smile.
Top. Et ben même pas, parce que
on a entendu tout à l'heure.
Bah ouais, mais non. Alors après chacun a son petit top 3.
Vas-y.
Moi j'avais envie de faire 3-2-1 ce soir. D'abord, si The Smile en fait, vous avez raison.
D'accord.
J'en étais sûr.
Mais oui. Farceur, toi.
Oui. Bah oui, d'abord The Smile effectivement, un de mes albums préférés, si ce n'est peut-être finalement l'album que j'ai préféré en 2022 tout simplement. Bon, on est tous fans de Radiohead.
Je comprends.
Voilà. Et puis, tu as passé un titre tout à l'heure qui était vraiment très très bien. Je crois que c'était 13 mai 2022, la sortie de leur album, dont j'ai oublié le titre, mais je vais te le donner quand même, parce que mine de rien...
Il y a Light dans le titre.
Il y a Light dedans.
Light for Attractive Attention.
Ah, merci. Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, donc album, The Smile, c'est évidemment, on a parlé de Radiohead tout à l'heure, c'est pour une raison, c'est Thom Yorke et...
Johnny Greenwood.
Exact, auquel s'ajoute un troisième larron, c'est pour ça que en fait, j'étais dans 3-2-1. Est-ce que vous savez comment il s'appelle ce...
J'ai
Attention,
oublié, c'est un batteur.
Ouais, et puis c'est le proviseur dans les Simpsons.
Ah bon ?
Skinner. Oui, c'est Thom Skinner qui vient du groupe Sons of Kemet. Bref, ce petit trio-là fait quand même des...
Fait des étincelles.
Ah bah, fait des étincelles, clairement. Moi, je suis arrivé dans... j'ai écouté comme tout le monde, mais vraiment le titre qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu, et quand j'avais fait une chronique il y a quelques temps sur ce groupe, You Will Never Work in Television Again, je vous le suggère, je vous suggère de l'écouter, c'est vraiment une petite bombe ce titre. Skirting on Surface, que tu as... Désolé pour l'accent.
Surface.
Ouais, c'est ça. Très sympa aussi. Et puis, The Smoke aussi. Et il y en a d'autres. Hein,
Panavision aussi.
Ouais, tout à fait. Donc, à écouter, pour ceux qui ont regardé des séries aussi en 2022, souvent... Ah bah, y a souvent un titre de Smile qui...
Ouais, c'est vrai.
Parce que, bah voilà, c'est très, très, très sympa, quoi. Et, bah voilà, tout simplement, à écouter. Il y a eu une petite rumeur aussi, ce qu'on peut en dire quand même. Il y a une petite rumeur sur la reformation du groupe Radiohead.
Et un album pour 2023.
Un album pour 2023 pour qui ?
Pour Radiohead.
Pour Radiohead qui va tomber. Ah bon ?
Ouais, bah, tu sais bien comment ils fonctionnent.
Oui, c'est
ça. La dernière fois, ça a été une grosse surprise. Ils disaient c'est oui,
ça.
peut-être, et paf, c'est sorti.
C'est ça. En fait, il y a un membre du groupe qui a dit qu'effectivement, ils étaient censés se rencontrer début 2023.
C'est ça.
Pour en faire, finalement, pour faire quoi de cette réunion, on va le savoir d'ici peu. Mais en tout cas, ouais, effectivement, The Smile, c'est vraiment à écouter, à réécouter. C'est une des très, très bonnes surprises de 2022, tout simplement.
Ouais, absolument.
Mais il y en a d'autres.
Pablo, sur The Smile, peut-être un petit mot ?
Oh, pas grand-chose. Non, franchement, moi, je suis hyper content de retrouver la voix planante de Thom Yorke. Toujours un petit peu à la limite, parfois sur le fil, entre la fausse note et puis la maîtrise totale. C'est vraiment magnifique. Ce qui est très intéressant, je trouve que le batteur, mais ça, j'ai pas eu le temps de creuser là, mais j'ai l'impression qu'il vient du jazz et qu'il y a vraiment, on retrouve aussi cette rythmique.
Pulsation
de jazz, ouais, tout à fait. Quand même, ce groupe s'inscrit tout à fait dans les pérégrinations, les chemins de traverse du groupe Radiohead. Donc c'est pour ça qu'on fait le rapprochement, on s'excuse, mais c'est vrai que
Mais ça ressemble beaucoup.
Ça ressemble tellement.
Alors, ça ressemble beaucoup, mais j'ai envie de dire presque ce qui m'a plu dans The Smile, notamment le titre que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y avait presque un retour au son du Radiohead qu'on aimait bien d'il y a vraiment quelques années. Parce que sans vouloir critiquer, mais bon, quand on est fan, on aime
on
bien
a le droit
critiquer.
De critiquer.
Voilà. Les derniers albums ont ce côté un petit peu très sympathique, mais très mou du genou. Et là, il y a un petit côté presque un peu rock sur You Will Never Work on Television Again. Il y a ce côté un peu rock qu'on avait dans les albums d'il y a 10-15 ans.
Okay Computer.
Ouais, même. Voilà, il y avait ça. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de retrouver la voix de Thom Yorke avec une rythmique un peu différente. Alors, il y a des puristes qui n'aiment pas du tout parce qu'ils veulent absolument le son de Radiohead et ça diffère légèrement. Mais moi, trouver l'entendre lui avec du rythme et des musicalités légèrement différentes, j'ai trouvé que c'était vraiment un bol d'air frais, ça fait vraiment du bien, quoi.
Autre découverte et autre conseil pour nos auditeurs.
On a dit 3-2-1. Alors 2, j'en avais parlé évidemment dans une autre chronique, c'est Wet Leg.
Voilà, avec Chaise Longue.
Exact, Chaise Longue, qui a été un titre qui a fait...
Des Super Banana, c'est ça ?
Ouais, c'est deux Britanniques, 28 et 27 ans. Bon, au moment où j'ai lu l'article, donc c'était en septembre, ça se trouve, elles ont pris un an. Mais Ryan Tisdale et... Esther Chambers, voilà tout simplement. Et bon, les clips sont à regarder. Alors, ce qui est assez drôle, on en avait parlé, c'est que ça a été un succès vraiment fulgurant pour ces deux artistes. Et surtout, elles ont fait la plupart des choses pendant le confinement de manière très artisanale en quelque sorte. Et alors après, bon, on ne sait pas si elles ont joué. Moi, je pense que ça joue vraiment sur la candeur, le côté un petit peu innocent. Oh non, on ne s'attendait pas au succès, ça nous est tombé dessus. Je pense qu'en fait, derrière, c'est savamment étudié ce côté-là.
Tu crois ?
Ouais. Et Chaise Longue que passe en off Seb, là, super, super titre. Ouais, c'est une petite...
I got the big D.
Exactement.
C'est vrai.
Ouais.
Le diplôme.
Tout à fait, ou pas. On va en reparler un tout petit peu. Je laisse un tout petit peu quelques-uns. Donc j'enchaîne ?
Oui.
Alors... Petit détail, pour ceux qui ont envie de curiosité, sachez que ce titre-là, hein, qui a été un buzz mondial, elles en ont enregistré une version en français. Donc si vous cherchez, ça existe.
C'est vrai.
Et il y a toute une subtilité sur la traduction, parce qu'évidemment...
Le beurre, ma brioche.
Voilà, voilà. Voilà, et dans ce titre-là...
Ce beurre et la brioche. Et
tout à fait.
Vous êtes sérieux?
Et, oui, c'est ça, c'est ça. Et Big D, en fait, c'est à la fois le diplôme, ça fait allusion à ça, et aussi à gros... quelque chose commence par D en anglais.
D'accord.
Qu'on ne citera pas. Mais il y a souvent des allusions, ça joue un peu sur ça. Et il y a un titre... que j'avais passé, qui n'était pas Chaise Longue du coup, mais qui était Wet Dream. Là, clairement, c'est même pas des avions, c'est vraiment graveleux même, on peut le dire, mais c'est un super super titre, c'est très péchu, c'est court, ça dure même pas 3 minutes. Et voilà, c'est vraiment une des vraiment grosses grosses satisfactions, vraiment gros coup de cœur de 2022.
Et ton troisième?
Alors, le troisième, j'ai un peu triché. On en avait parlé un peu en off, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait 2022. En gros, c'est un artiste que j'aime énormément parce que c'est l'ancien leader d'un groupe qui me passionne, qui est Supergrass.
On avait fait une émission spéciale sur Supergrass.
Exact. Une émission spéciale sur Supergrass. Et donc, c'est Gas Combs, Combs, s'appelle comme tu veux, parce que c'est de haut. Et donc, leader de Supergrass pendant très longtemps, et qui a lancé une carrière solo. C'est quand même, c'est déjà son cinquième album. Ouais, ouais, tout à fait. Et tout simplement, le prochain album qui s'appelle. Alors, je vais te donner le titre parce que c'est avec Car dedans. Le prochain album qui va arriver s'appelle Turn the Car Around et il va sortir dans 2 jours, figure-toi. Donc je prends juste un peu d'avance. Et il a sorti, et on l'entend derrière, il a sorti un titre qui est très beau.
Il y a 3 mois, donc c'était en 2022.
Voilà, en 2022, un peu pour teaser l'album. Et voilà, je trouve que c'est une vraie...
Don't say it's over. Ne dis pas que c'est terminé.
Bah je dis pas que c'est terminé, c'est le problème.
Oh, tu n'as pas tout à fait triché. Hein.
Tout à fait, c'était jouer avec la règle. Sympa.
Ah, ça a l'air très sympa.
On retrouve sa voix, c'est plus, évidemment, c'est
plus posé que sur voilà. Supergrass.
Il le dit, tu vois. Alors, c'est typiquement, oui, j'ai mûri. Enfin, c'est l'album de la maturité.
Ah, voilà, voilà, on y arrive. C'est bon. Pablo, ton top musical, s'il te plaît.
Ah, mais non, mais moi, j'étais resté sur The Smile.
Il n'y a que The Smile dans la vie.
Et il y avait quand même Stupéfly. Mais tu en as parlé. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Ouais. Bravo.
Et d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé cette album.
Merci, Pablo.
Mais là, je suis en train de découvrir...
Gas Combs.
Ouais, excellent.
On est loin de All Right, hein.
Ouais, mais il y a un faux pour tous les goûts. Moi, ça me fait penser par exemple à des trucs un peu plus traînants comme Saint-Pétersbourg, de super album que je conseille, mais c'est d'ailleurs sur Supergrass, ou d'autres trucs.
Alors
bah alors, toi, Seb.
Voilà. Ah. Donc, moi, il y a The Smile et il y a Stupéflip. Donc, déjà, on est raccord.
Voilà.
Et évidemment, il y a les Melvins qui ont sorti un album. Donc, comme je suis pas du tout objectif, il y a forcément les Melvins dans mon top.
Voilà.
Et puis il y a Megadeth. Alors là, c'est pour les fans de métal. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Megadeth, quand même, qui est un vieux groupe de trash américain. Voilà, les vieux concurrents de Metallica qui n'ont jamais eu le même succès que Metallica. Bon, depuis plusieurs années, ils enchaînaient des albums plutôt moyens. L'avant-dernier était pas mal. Et alors là, le dernier, il est carrément époustouflant. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est entouré, Dave Mustaine, de jeunes musiciens, d'un batteur, de Belges. Ils sont hyper forts. Et ils nous ont fait un truc de folie. Alors pour ceux qui aiment le métal, je vous propose d'écouter un tout petit extrait, parce qu'on ne va pas pouvoir tout écouter, mais c'est un super album. C'est juste le retour en forme de Dave Mustaine.
Oui, des fois, le sang frais. Hein. Le sang frais, apporter du sang frais à son groupe.
Un petit extrait? Bref, on va pas écouter le morceau en entier.
Ah, c'est sympa, c'est péchu.
Il est un peu tôt, il est 19h51, donc pour écouter du trash metal, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est quand même réussi. Pablo.
Ouais, juste une chose, ce qui me frappe là, dans cette intro, c'est la netteté de tous. C'est hyper propre.
Ah ouais, c'est carré. Hein.
C'est carré boulon, quoi.
Et le son est terrible.
Ouais.
Et il chante bien.
Carrément.
Voilà, donc l'album c'est The Sick, The Dying and The Dead. Je vous conseille si vous aimez le métal, voilà. Dernier tout petit conseil avant de passer au BD et à terminer l'émission, c'est Le Commandant Cousteau. Alors Le Commandant Cousteau, qu'est-ce que c'est ? J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu à Romain. J'ai découvert ça en Italie, alors que c'est un artiste français, donc c'est quand même pas banal. Et Le Commandant Cousteau, ça m'a fait penser à Jamiroquai, si vous voulez, un petit peu. Je ne sais pas si vous aimez ce style.
Bien sûr, je vois, ouais, tout à fait.
Et c'est vachement sympa, il y a un côté un peu funk, un peu planant. Voilà. Est-ce que vous voulez écouter un petit extrait ?
Allez, let's go.
C'est vrai ?
Ah ouais, ouais, ouais.
Alors ça me fait bien plaisir.
Et toi, tu as découvert ça en
Italie ? En Italie. Ils écoutent de la bonne musique, hein, ouais. Vous allez voir, quand la basse démarre, ça fait très Jamiroquai. C'est hyper cool. C'est chanté en français, c'est la classe. Le laisser en fond. Tiens.
Ouais, c'est pas mal.
Hein. Ouais, c'est pas mal.
Pour parler des BD et des livres qu'on a aimés en 2022.
Et c'est, c'est très étonnant comme.
C'est chouette, hein.
Ouais, ça fait vraiment penser à Jamiroquai. Il y a un petit côté groove.
C'est un groove, c'est funk. Ouais, c'est ça. Il est funky. Puis Le Commandant Cousteau.
Ouais, non, mais en soirée, tu mets ça en. Ouais. En soirée, c'est vraiment ça.
Bref. Alors, les gars. Bande dessinée, livre, magazine, qu'est-ce qui vous a
Alors moi j'ai une petite
parlé
BD.
En 2022. Ah, une BD Pablo.
Oh, une petite BD, mais en fait c'est plutôt une. Alors c'est une série. Alors je vais vous parler de Wolverine, de la collection Must Have. Édition Panini. Et oui, alors moi aussi
Panini
ça m'a
Comics.
Surpris.
Non, ouais, c'est ouais. Oui, mais ils éditent des BD depuis très longtemps.
Mais ils sont excellents. Wolverine, le plus féroce des X-Men, découvre que la femme qu'il aime, Mariko Yashida, va être mariée de force par son père. Il se rend au pays du soleil levant pour la libérer. Mais rien ne va se passer comme il l'attendait. Il est Wolverine, le meilleur dans sa partie. Mais ce qu'il fait n'est pas très très joli. Logan part au Japon, loin des X-Men, pour comprendre pourquoi Mariko, la femme qu'il aime, en a épousé un autre. La réponse va le conduire à s'opposer directement au père de Mariko et tout un monde de ninjas et de samouraïs. Juste pour dire que cet album recueille la toute première mini-série consacrée au plus célèbre des mutants. Cette saga est l'œuvre de deux maîtres incontestés du comics, Chris Claremont, donc qui est dit le pape des X-Men, et Frank Miller, évidemment, qui a ajouté une touche de noirceur dans les comics dans les années 80.
Excellent Frank Miller.
Ouais.
C'est qui a relancé Batman, qui a relancé plein de...
Absolument, ouais.
C'est lui qui a fait aussi les Watchmen.
Exact. Exact, exact.
Allez, moi, c'est l'Arabe du Futur 6, le dernier tome de la saga de Riyad Sattouf. L'Arabe du Futur 6, alors vraiment, est génial. Hein. Vraiment, là... On finit en beauté, si j'ose dire. Alors, c'est la fin du parcours de Riyad, donc la fin de son adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Et puis, c'est surtout... donc, c'est la relation avec son père, sa mère, voilà, et qu'on a suivi depuis qu'il est tout petit. Et c'est surtout la fin de l'histoire de son frère qui a été enlevé, parce qu'il faut savoir que son petit frère a été enlevé par son père, qui est parti en Syrie. Voilà, et qu'il n'a pas vu pendant plus de 10 ans. Et là, en fait, ça vient résoudre en fait ce drame, hein, voilà. Et on a la solution. Alors, je ne vous révèle pas la fin, bien sûr, mais à la fin du livre, on sait ce qui est arrivé à son frère et on sait ce qu'il est devenu. Voilà, est-ce qu'il est resté en Syrie, est-ce qu'il est rentré en France, je ne vous dis rien. Est-ce qu'ils se sont retrouvés, je ne vous le dis pas. En tout cas, c'est vraiment très très chouette. Hein. Si vous n'avez pas lu L'Arabe du Futur, je vous le conseille. Alors, il y a 6 tomes, mais ça se lit très bien. C'est vraiment super intéressant. Et c'est l'histoire de Riyad Sattouf, mais c'est incroyable la vie de ce mec. C'est un truc de fou.
C'est dingue.
Il lui est arrivé plein de choses
dans l'histoire avec un grand.
Ouais. Et puis alors la mémoire, parce que je pense pas qu'il ait tout réinventé. Il y a une mémoire des détails qui est incroyable. Donc voilà, une très très belle BD, L'Arabe du futur.
Et c'est le dernier tome du
coup. C'est le dernier, c'est fini.
Après c'est fini.
Ouais.
D'accord.
Ouais, oui, il clôt le cycle exactement, ouais, de son enfance, son adolescence, de sa, en fait, de, finalement de sa construction. Voilà, comment il s'est construit.
Magnifique.
Je voulais vous conseiller deux magazines. Rockhard, le magazine du hard rock et du métal, et New Noise, un super magazine qui parle de rock, mais aussi de musique électronique, de hip-hop, etc. Parce que c'est des magazines français, ils sont de très très grande qualité, donc je vous incite à les acheter, à vous abonner, allez-y.
Et oui, et puisque tu parles de magazines, c'est vrai que, et qu'on faisait un best-of, pour rappeler que, j'en ai parlé Romain, les Inrockupti font un numéro spécial,
ah oui, tous les ans, ouais.
Best of 2022. Donc là, vous trouverez plein de pépites.
Génial. C'est clair. Oui. Alors, on a des auditeurs et des auditrices fidèles. On salue Eric, on salue Marie, on salue Florence, Paul, tous les gens qui nous écoutent.
On les embrasse.
Sarah, Laetitia, Rudy.
Voilà, on vous embrasse, Tony,
ouais,
s'il nous écoute. Ouais. On termine l'émission avec Miss Trip, A Ticket to Death. Et on se dit à dans 15 jours.
Yes.
Salut,
tout le monde.
Ciao, ciao. Hasta luego.